peut être là, dans sa présence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a eu la fête des mères, on a démontré les qualités d'une femme. Amen. On a démontré comment, quand Dieu a créé la femme, eh bien, comment il l'a créée avec des habiletés puis des qualités extraordinaires. Et une des plus grandes qualités qu'on a démontrées de la femme, c'est sa une des. Amen. C'est combien elle a de l'endurance, amen. Et puis, parce que nous sommes celles qui amènent à la vie. Et combien on a de l'endurance, et même quand on est dans les douleurs, tout ce qu'on entend autour de nous autres, c'est pousse, 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 ben oui, encore plus. Et puis, combien qu'on a de l'influence aussi, notre influence doit vraiment être placée dans le but de vouloir influencer et soutenir notre mari à faire le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, pour la fête des pères, je voudrais élever l'homme, le mari, le père. Amen. Et puis pour cela, on va aller à Genèse 2. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Genèse 2. Et on sait très bien que Dieu a dit au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Je lui ferai une aide semblable à lui. Et si je vais au verset 21, la parole de Dieu dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Je méditais là-dessus et puis je me disais, quelle est la façon d'édifier l'homme, de l'élever à sa juste valeur? Et Dieu m'a répondu tout de suite, Dieu lui a dit, « As-tu vu que juste avec un morceau d'os pris de l'homme, ce que j'ai fait. » J'ai dit, wow! Wow! Juste avec un morceau de côte, regardez ce qu'il a fait. Pouvez-vous imaginer ce qu'il fait avec le reste? J'étais émerveillée. J'étais dans la maison, j'étais là, wow! Wow! C'est extraordinaire. Amen. Non, mais faut réaliser puis méditer la parole de Dieu. Amen. Juste avec un morceau, il a fait une femme. Wow! Pouvez-vous imaginer s'il prendrait tout au complet? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Wow! Amen. Alors, vous êtes tellement spécial. C'est grâce à vous, on a été tiré de vous. Wow! Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors tous les hommes célibataires, cherchez votre morceau. Amen! Amen, gloire à Dieu. Amen. Il y a un morceau en quelque part qui vous manque. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et en plus, les hommes, en vous est la semence. Est la semence qui, amenée à la femme, produit le fruit. Non seulement avec une côte, vous avez fait une femme, mais en vous, vous pouvez produire la descendance. Amen. Amen. Et à ce moment-là, vous changez de nom, vous vous appelez père. Wow! Vous partez de l'homme qui a une femme, qui devient un mari, et avec la semence en vous. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec l'homme. Amen! Dieu a vraiment élevé l'homme. Amen! Et on a vu au verset 23 que lorsque Dieu y a amené la femme à l'homme, amen, wow, Dieu devait être fier. Et au verset 23, et l'homme dit, non, on va aller plutôt au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et vraiment, le mot femme, c'est Isha, parce que l'homme, c'est Ish, et la femme, Isha. Et celle qui a été prise de l'homme. Voyez-vous, Dieu a donné la domination. On n'a pas vu, mais dans Genèse 1, verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et donnons-lui la domination. Alors, c'est pour ça que quand la femme est arrivée, l'homme a dominé tout de suite et il a dit, on l'appellera femme parce qu'elle est prise de moi, amen, haut de mes os et chair de ma chair. Et après ça, si on continue à lire, on va voir que au verset 24, ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, amen. Alors vraiment, en apportant la femme, l'homme est devenu aussi le protecteur de la femme. Les qualités de l'homme, c'est que l'homme est fait pour dominer, amen, il est fort, Dieu lui a donné la force, et il devient, avec la femme qui est arrivée, il est devenu maintenant le protecteur de la femme, parce qu'il doit s'attacher à elle. Puis le mot « s'attacher à elle », c'est vraiment le protecteur de sa femme. Et après, il s'attache à elle, il devient son protecteur. C'est une partie de lui. Amen. C'est pour ça que on va aller à Éphésiens 5, lorsque la parole de Dieu, le Seigneur vient de me rappeler cette écriture, Éphésiens 5, lorsque c'est écrit, OK, je vais le trouver. Au verset 28, ça dit, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. » Bien oui, elle a été tirée de lui. « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Parce que nous sommes membres de son corps. Voyez-vous, il en prend soin, il devient le protecteur. Puis après ça, c'est là que c'est écrit, c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le même verset qui est pris dans Genèse. Le mot « s'attacher à elle » veut dire qu'il devient le protecteur de sa femme. Ça, c'est une qualité que l'homme a, c'est de protéger, d'avoir la force pour protéger. Et lorsque la semence est mise dans la femme et que là, il devient père, il devient le protecteur aussi de ses enfants. Il est le protecteur de sa femme, puis il est le protecteur de ses enfants. Amen. Alors, l'homme a une grande responsabilité envers la femme et envers ses enfants. Puis Dieu, il a mis ça, ces qualités-là en lui. On va aller dans Genèse 2. Merci Seigneur. Genèse 2, si je regarde au verset 15, la parole de Dieu dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors, le mot « cultiver » veut dire « travailler ». Pour le travailler, ce jardin-là, et le garder, dans une autre traduction, ça dit « garder les choses en ordre ». Et ça veut dire aussi y faire attention, après ça, c'est le surveiller, être un bon gardien, puis le défendre. Vraiment, Dieu a placé des grandes habiletés dans l'homme pour faire attention, pour surveiller, pour être le gardien, pour défendre, pour prendre soin, pour y travailler. Amen. Alors, la femme, elle est là pour influencer l'homme à faire ces choses-là, à bien cultiver le jardin, à bien protéger. Je suis très bonne pour influencer là-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Et les deux, vous savez que les deux ont été attaqués sur leur force dans le jardin. La femme a été tentée sur l'influence qu'elle avait, alors elle a mal influencé à ce moment-là son mari pour goûter à la pomme. Et l'homme a été tenté, lui-ci, dans un sens, parce qu'il n'a pas gardé, protégé, surveillé les choses pour pas que ça l'arrive. Alors, les deux ont été attaqués dans le jardin. Mais merci, Seigneur, qu'on a un Père éternel qui veut le bien de ses enfants, puis que lui-ci, il veut protéger, garder, surveiller et faire attention, puis qu'il est venu à notre secours. Mais c'est tellement important pour un homme et pour une femme de connaître nos différences et de voir que nos différences sont faites pour aller ensemble. Comme j'ai dit tantôt, on a été tirés de l'homme, ça veut dire que la femme est une partie de vous. Donc, on est différent. Moi, je méditais là-dessus hier, puis méditais beaucoup. Et puis, Dieu il a ôté la féminité de l'homme, qu'il avait mis dans l'homme, lorsqu'il a ôté la femme. Puis, je méditais beaucoup là-dessus, parce que vous savez, la mode présentement à Hollywood, c'est d'amener les hommes à avoir l'air efféminés. Mais pourtant, ça a été enlevé de là. Puis Dieu l'a fait, le féminin, à côté. Mais on est le complément, puis on est différent. Nous sommes vraiment différents. On va aller à 1 Pierre 3. Je sais que j'ai déjà parlé de cela, mais c'est ça que Dieu voulait que je reparle ce matin. Dans 1 Pierre 3, au verset 7, la parole de Dieu dit, « Marie, les mariées, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Mais le mot « sexe », quand on va voir dans la traduction, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « comme un vase différent ». Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez-vous, Dieu y a ôté la féminité, y a ôté le côté délicat. Vous savez, une femme, hein, nous autres, on ne pèse pas à bonne place, puis on pleure. Amen. Les hommes sont faits différents. Ils arrivent à la maison, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La femme pleure, ils ne savent pas quoi dire, ils virent de bord puis ils s'en vont. C'est ce que je veux dire. Ils disent que la femme, elle a trois fois plus de langage, de mots dans son vocabulaire. T'sais. Quand on demande à l'homme, « T'as-tu passé une bonne journée? » « Ouais, elle veut plus que ça. Okay? » Elle veut que tu élabores. Elle veut que tu lui dises si la secrétaire a vraiment eu, est en congé, c'est revenu, c'est elle a eu son petit bébé. Elle veut savoir les affaires. Tiens. On est différent. Et quand on lit cette écriture-là qui dit, Marie, traitez vos femmes avec sagesse. Avec sagesse, ça veut dire, comprenez, ayez de l'intelligence pour savoir que la femme est différente de vous. Parce qu'il y a des hommes, des fois, pas vous autres, là, mais dans le monde, il y a des hommes, des fois, que quand ils arrivent à la maison, puis que la femme, elle a passé la journée dans la maison, puis elle fait du ménage, puis elle s'occupe des enfants, puis elle est fatiguée, puis tout ça, puis vous, vous arrivez bien de bonne humeur, parce que vous avez fini un petit peu plus de bonne heure, et puis le boss, il vous a payé un café, puis là, vous arrivez de bonne humeur à la maison, et puis que là, la femme, elle chiale un petit peu, des fois, ça arrive, et puis qu'elle est plus fatiguée, fait qu'elle a les nerfs un petit peu plus à bout, et ces choses-là, il y a des hommes qui vont dire, « Bon, ça, c'est bien elle. Toujours après chialer, revire de bord. » Tu sais, mon père, il disait toujours, « Quand tu arrives chez vous, tu lances ton chapeau. S'il revient pas, tu peux rentrer. » Il en disait bien des affaires, mon père. Hein, Sylvie? Hey boy! Et puis, là, l'homme, des fois, si vous voyez que ça chiale trop, il n'est pas capable d'endurer ça, moins une femme qui chiale, elle brôle tout le temps. Il revient devant. Non, c'est parce qu'il la comprend pas. Je veux juste que vous sachiez que la parole de Dieu dit, Marie, traitez vos femmes avec sagesse, reconnaissant qu'elle est un vase différent. Puis moi, je l'ai déjà montré ici, Parce qu'on sert à la même chose, amen. On est là pour aider nos maris, mais on est plus fragile, le mari est plus fort. Et juste pour comprendre, j'avais déjà apporté deux coupes similaires. Et puis, pour montrer qu'il y a une coupe qui est forte, amen, est solide, elle sert pour boire, mais... On pourrait faire un plus beau son que ça. On fait un plus beau son que ça, nous autres, d'habitude. Oui! Vous avez vu comment qu'on est fragile? Amen! Gloire à Dieu! Mais on sert à la même chose. On travaille dans le même but. C'est comme le pilote puis le copilote, comme j'ai déjà dit ici, d'avion. Tous les deux, ils dirigent l'avion vers la même direction. Puis si le pilote est demandé pour aller en arrière régler un problème, le copilote va continuer à faire la même chose. Comme le mari, s'il est au travail, la femme, elle continue à faire la même chose. Prendre soin de la maison, garder la maison, surveiller, élever les enfants, la semence qu'il a mis. Ils sont père et mère, ils sont parents. Amen. Alors, on est juste un vase différent, juste plus délicat. Juste plus délicat. Fait qu'il faut faire attention. Amen. Alors, veux-tu mettre ça là, Pasteur Brian, avant que je casse tout, là? Là, ici. Bon, merci Seigneur. Alors, la parole de Dieu dit, traitez-les différemment. Vous êtes faites fort. Amen. Puis toutes les femmes aiment s'appuyer sur son homme. Amen. Parce qu'ils sont faits forts. Amen. On sent la protection. On sent, des fois, moi, je suis dans la maison, je suis après parler avec quelqu'un, puis là, mon mari passe à côté de moi, puis il me dit, assis-toi, ménage tes jambes, assis-toi. Il est toujours après vouloir me surveiller, prendre soin. Amen. Être un bon gardien. Ça, c'est les qualités des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Et les femmes, on vous aime, les hommes. Amen. Ben moi, j'aime mon homme, là. OK. Mais on aime les hommes en général. C'est normal. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voulais qu'on honore Dieu, puis on l'a tellement bien fait avec la louange ce matin. Ils viennent toujours chercher mon sermon. C'est pour ça qu'après ça, j'ai de la misère un peu à rentrer dans mon sermon, parce qu'ils le font en louange. Amen. Mais je voulais qu'on regarde les qualités de notre Père éternel, qui est le Père des Pères, et que ça devrait être les mêmes qualités qu'on retrouve dans nos pères terrestres. Amen. Si je vais au psaume 103, puis je regarde au verset 13, c'est David qui a écrit le psaume 103, et il dit, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Voyez-vous, David, il prend l'exemple du Père terrestre qui devrait être comme le Père céleste. Il dit, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Alors vraiment, une des grandes qualités qu'on retrouve dans un Père terrestre et qu'on doit retrouver automatiquement encore bien plus dans notre Père céleste, c'est la compassion. Et si je vais à Matthieu 7, et puis que je regarde au verset 11, Jésus dit ici, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande? » Voyez-vous, notre Père céleste, il nous donne des bonnes choses. Il a compassion de nous. On peut s'attendre. Ce qu'on voit dans un Père terrestre, avec méchant comme il peut l'être. Pouvez-vous imaginer votre Père céleste dans les cieux, comment lui peut vous donner tout ce que vous lui demandez? Moi, je me souviens quand on était arrivé à l'école biblique aux États-Unis, on avait tout vendu, on était même, des fois je fais des farces, je dis, on était même arrivé là à pied, parce qu'on avait vendu notre auto aussi, parce qu'on disait, on va rester proche de l'école, on va aller à l'école à pied, on n'aura pas besoin d'auto, là-bas, il n'y a pas d'hiver, c'est l'été, sauf que quand on est arrivé en été, il faisait 110 degrés puis sans d'humidité. Oui, il faisait chaud. Et puis, finalement, on avait donné tellement de choses qu'on a récolté, rendu là-bas. Il y a des gens qui nous ont donné des meubles. Nous autres, on pensait au début qu'on était pour dormir sur un matelas soufflé pendant 2 ans. Et on s'en allait à l'école biblique. Il n'y a plus rien qui nous dérange, sauf après 2 jours qu'on avait mal dans le dos. Alors, il y a quelqu'un qui nous a donné des lits puis toutes sortes de choses. Mais il y a juste une chose qu'il fallait absolument qu'on achète, qu'on a acheté pas cher dans une vente de garage, c'était une laveuse pour le linge. Hein? Puis mon mari il m'avait dit, tu iras l'étendre dehors. Il m'a mis des cordes, puis il y avait des trous à terre. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'un trou qui est bien rond comme ça, qui s'en va par en bas, ça ressemble à des serpents qui doivent être là, tu sais. Fait que j'étendais mon linge comme ça. Mais 110 degrés sans d'humidité, ça sèche pas, hein. En tout cas, moi, j'étais tout trempé, fait que j'imagine que mon linge devait l'être aussi. C'est drôle! Ça fait que, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, non, ça, je voudrais avoir une sécheuse. J'ai dit ça, parce que nous autres, notre argent était tout calculé pour pouvoir passer nos années à Réma, puis il n'était pas question qu'on dépense un sou de plus. On était vraiment serrés. Alors, j'ai dit à mon mari, j'aimerais ça avoir une sécheuse. J'ai dit, non, on ne mettra pas l'argent là-dessus. Fait que là, je passais à ma balayeuse, mais tu sais, ta passe un petit peu plus raide, là, tu sais, là. Je passais à ma balayeuse, puis je priais en langue, puis tout ça. Puis là, ben c'est pareil comme si Dieu attendait sur son trône. Puis c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur de moi, il a dit, tu l'as demandé à ton mari, qui est limité, qui ne peut pas, mais il dit, tu me l'as jamais demandé à moi, ton père. Et là, j'ai arrêté de passer à balayeuse, j'ai dit, c'est bien trop vrai. Oui, non, j'ai l'habitude d'être plus intelligente que ça. Ben, j'ai dit, c'est vrai, Père éternel, que mon mari n'a pas l'argent, mais j'ai dit, toi, Père éternel, tout t'appartient, Seigneur. Tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec toi. Là, les versets sortaient. Alors, j'ai dit, Père éternel, je te demande une sécheuse dans le nom de Jésus. Amen. Parce que moi, j'avais acheté, comme on dit, une laveuse, elle était verte. Fait qu'elle était un petit peu démodée. Et puis, j'ai dit, là, je te demande une sécheuse. Mais ça n'a pas pris 3 jours qu'il y a quelqu'un qui a cogné à la porte, qui travaillait dans un endroit où ce que des fois les gens se débarrassaient de leurs choses. Et il dit, je viens d'avoir une laveuse et sécheuse blanche. Il dit, ils sont comme neuves. Il dit, ça ne fait rien, moi, prendre ta vieille laveuse que vous avez achetée dans la vente de garage. Puis il dit, je vais te donner le beau set qui va ensemble. Là, j'ai vu, c'est quoi? Un Père éternel. Amen. Non seulement lui, il dit, voyons donc, ça ne marchera pas, là, mettre une sécheuse blanche, une laveuse verte, voyons donc, on va enlever ça de là, tu vas avoir une sécheuse, moi, te donner un beau set. Ça, c'est Dieu, toujours infiniment au-delà, amen. Fait que si vous vous sentez un petit peu limité, des fois, allez voir l'illimité, amen, gloire à Dieu. Mais Dieu donne, c'est un Dieu qui donne. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses, combien plus? Votre Père dans les cieux ne vous donnera-t-il pas toute chose à celui qui le lui demande? Amen. Je voulais qu'on lise une histoire ce matin que vous savez probablement par cœur, mais on va aller à Luc 15. Tout le monde l'appelle l'histoire de l'enfant prodigue. Je ne sais pas pourquoi. On pourrait y donner un autre titre. On pourrait l'appeler l'histoire du frère religieux. Amen. Ou maintenant, on pourrait l'appeler l'histoire du Père qui a compassion, qui est amour, qui pardonne et qui pourvoit au-delà. Mais tout le monde a mis l'accent sur l'enfant prodigue. Amen. Alors, si vous voulez, on va lire toute l'histoire. Puis après ça, je vais juste passer à quelques petites réflexions que je voulais qu'on ait ce matin. Alors, au verset 11, ça dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune, il a dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Parce que si un demande, Dieu donne à tous également. Amen. Dieu donne à tous également. C'est une écriture de la Bible, ça. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Puis moi ici, je meurs de faim. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je me lèverai, j'irai vers mon père, puis je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui dit, il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Mais son père sortit. Voyez-vous, son père il a couru vers l'autre. Son père, il sort vers celui-là. C'est pas Dieu qui se cache. Dieu, lui, est toujours prêt à aller. Amen. Alors, son père sortit et le pria de rentrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien est arrivé avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et maintenant il est retrouvé. » Alors, comme j'ai dit, ça pourrait s'appeler de trois façons. L'histoire du Père qui est rempli de compassion, d'amour et d'abondance, de pardon. Ça pourrait s'appeler l'histoire de l'enfant prodigue qui revient à la maison. Ou ça pourrait s'appeler l'histoire du frère religieux. Voyez-vous, le péché, le jeune homme, le péché va te détruire à la longue. Amen. Le péché, ça finit par te détruire. Puis si le jeune homme, il n'était pas rentré en lui-même pour reconnaître son père, eh bien, il aurait été complètement détruit. La religion va t'empêcher de voir à t'aveugle. Le péché te détruit, la religion t'aveugle. Pourquoi je dis ça? Parce que son frère, quand il est arrivé, il n'a jamais pu voir de ses yeux comment son père, tout avait à sa disposition, et son père était toujours là, prêt à lui donner. Vraiment, la religion va t'aveugler, va t'empêcher de voir les choses comme elles devraient être. C'est dommage. C'est pour ça que les religieux vont toujours chioler à propos de « Oh, vous autres, vous êtes juste des gens qui priez au nom de Jésus puis vous pensez tout avoir. » Je vous le dis. Les religieux vont toujours être en colère de toutes sortes de choses. Comme le frère, quand il est arrivé, puis son père, il a sorti pareil, comme de la même façon qu'il a sorti avec l'autre. Son père, il a dit « Mais oui, mais tout était toujours là. Tu pouvais le faire tant que tu voulais. » Amen. Alors vraiment, ce que je veux qu'on voit dans cette histoire qu'on vient de lire aussi, c'est que le fils, parce qu'il a péché, et même celui qui était religieux l'a jamais vu comme ça non plus, le fils, parce qu'il a péché, ne se voit plus comme un fils, mais il voit toujours son père comme un père. Parce que le fils, il dit, je suis plus digne d'être appelé un fils. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Il n'a pas dit, je vais aller vers le supposé père que j'avais. Non, il dit, j'irai vers mon père. Puis je lui dirai, mon père. Amen. Alors, voyez-vous, je crois que qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par cette histoire, c'est que nous autres, on peut des fois penser qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas, mais le Père va toujours rester le Père. Amen. Et en mettant l'accent là-dessus, vraiment, ce qu'il démontrait, c'est que le Fils, il s'est repenti, puis il dit, moi, je suis plus digne, puis même, au moins, mon Père, il a de la compassion pour les serviteurs, il me traitera comme un des serviteurs. Mais moi, je suis plus digne d'être appelé un fils. Alors, il n'a pas dit, j'irai vers le maître de des serviteurs. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père. Mais voyez-vous, un père, ça reste toujours un père. Parce que quand il a vu son fils arriver, puis son fils, il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé mon fils, ton fils. Il dit, apportez la plus belle robe. Revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, il fait partie de la famille, des souliers aux pieds parce que c'est loin d'être un serviteur, et tuons le veau gras. Amen. Et c'est comme si le père, il disait, je suis ton père, puis toi, t'es mon fils. Ça ne changera pas. Amen. Puis je crois que Dieu voulait vraiment qu'on voit que souvent on va dire ça, oh, Père éternel, mais on se sent pas digne. Le Père éternel reste toujours le Père, puis à ses yeux, à lui, on reste toujours son fils. Qu'on en soit digne ou pas digne, amen, on reste toujours un fils. Alors vraiment, je veux qu'on voit que le Père a en abondance, parce que le fils le sait, que le Père a en abondance. Il dit, les serviteurs chez mon Père, ils manquent pas de pain. Fait que je vais y aller, parce que je le sais que mon Père, c'est un Père d'abondance. Amen. Mais voyez-vous, on n'a aucune idée à quel point l'abondance est grande pour notre Père céleste. On n'a aucune idée, parce que en accord avec l'enfant prodigue, amen, le pain du serviteur est suffisant. Mais en accord avec le Père, ça prend un veau gras. Voyez-vous comment nous autres, on est toujours limités. Aussitôt qu'on fait une petite erreur, on se condamne et puis on pense, oh ben, mais on veut pareil obtenir quelque chose, là, remarquez bien. Le Fils, il voulait obtenir quelque chose. Il n'y a pas personne qui va à Dieu sans vouloir avoir quelque chose. Ou bien tu veux la paix, ou bien tu veux ressentir son amour, ou bien tu veux la guérison. Il y a toujours quelque chose qu'on a besoin. Amen. Oh, peut-être pas vous autres, en tout cas. Moi, oui. Mais voyez-vous, en accord avec le Fils, il est sûr d'être traité comme un serviteur puis d'avoir du pain en abondance. Mais en accord avec le Père, ça prend un veau gras. Et je méditais là-dessus sur le veau gras. Parce que quand l'autre est arrivé, le religieux, celui qui n'est pas capable de se réjouir, puis celui qui a tout à sa disposition, mais il a trop peur de le demander. Celui qui est religieux, puis il n'est pas capable de s'adresser à son père, il faut qu'il passe par un serviteur. Quand il y avait un homme, il dit, va donc demander, c'est quoi qui se passe, là? Il n'est même pas capable de s'approcher de son père. Ça, c'est les religieux. Eh bien, voyez-vous, le religieux, il dit, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils, qui a dissipé ton bien, voyez-vous, lui, il a toujours dans sa mentalité que tout appartient à Dieu, puis il n'y a rien qui nous appartient. Il a dissipé ton bien. Lui, t'a tué le veau gras. Fait que là, j'ai fait des recherches avec le chevreau puis le veau gras. Vraiment, même le fils religieux n'a aucune idée comment grandiose est son père. Parce qu'il dit, moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse. Dans une autre traduction, ça dit, tu ne m'as jamais donné la possibilité d'avoir un party avec mes amis. Mais quand ton fils, qui a tout dépensé, est arrivé, t'as fait un banquet élaboré, t'as fait un repas somptueux et des grandes célébrations. En voulant dire, t'as sorti de ton ordinaire. Non, il n'a pas sorti de son ordinaire. C'est Dieu le Père. Il est grandiose. Mais ni un ni l'autre peut voir à quel point Dieu est grandiose. Il dit, tu m'as jamais donné, me fait, permis que j'aille un petit party avec mes amis. Son père il dit, franchement, tu pouvais en avoir à tous les jours des parties si t'en voulais. Mais ton frère est revenu, puis je suis content. Mais quand je suis content, ça paraît. C'est le veau gras. C'est les grandes célébrations, c'est le banquet élaboré, puis les grandes réjouissances. Mais ni un ni l'autre, voyez-vous, l'enfant prodigue, il pense juste avoir du pain, mais son père dit, il pense pain, son père pense veau gras, la grande fête. L'autre, il arrive, il pense juste un petit chevreau, un petit party. Un chevreau, c'est paquet de poêles, c'est marqué ça dans le dictionnaire. Un paquet de poêles. Mais un beau veau gras. Et c'est-tu bon, hein, du veau, ça, hein? Quand tout le monde font le tourtière, là, ils mettent du veau puis du lard, hein? Du veau, c'est tendre, hein? Du foie de veau, c'est... OK. J'ai-tu tous des végétariens ici aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Du veau, c'est bon. Et il dit, t'as tué le veau gras. Ça veut dire que le petit veau, il est engraissé. Un beau petit veau de lait, là. La belle petite chair tendre, là. Ça, c'est comme ça que Dieu veut nous célébrer, notre Père. C'est le genre de Père qu'on sert. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais tous deux n'étaient pas capables de voir l'abondance de leur Père. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dieu, il a tué le veau gras pour nous en Jésus-Christ. Dieu, il a tué le veau gras. Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, on va juste aller à Jean 16, exactement qu'est-ce que le Père, dans l'histoire, a dit. Il dit, tout ce que j'ai, c'est à ta disposition. Des petits parties, tu pouvais en faire tout le temps. Mais dans Jean 16, la parole de Dieu nous dit au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, l'Esprit va me glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est à moi puis il va vous l'annoncer. Le mot annoncer, c'est transmettre. Il va prendre de ce qui est à moi puis il va vous le transmettre. Il dit vraiment, tout ce que le Père a, il est à moi. Jésus a dit. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, puis vous le transmet. Alors vraiment, de la même façon, on ne peut pas s'approcher du Père éternel, religieusement, puis dire, je te dis que, en tout cas, lui a l'air béni, mais moi, il me semble que je fais tout correct. Non, tout ce que le Père a, il l'a donné à Jésus, et le Saint-Esprit peut te le transmettre n'importe quel temps. Il peut le transmettre dans ta vie, le déposer dans ta vie, te l'annoncer. Amen. Tout ce que le Père a, il y a du veau gras. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, on va juste regarder 2-3 Écritures et prendre la communion. 2 Corinthiens 6, la parole de Dieu nous dit au verset 18, ça dit, « Je serai pour vous un père, puis vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors Dieu, il est vraiment notre père, puis nous autres, on est ses fils et ses filles. Moi, je veux pas être ni comme le pécheur, puis ni comme le religieux. Je veux reconnaître mon Père éternel comme il est vraiment. Toujours celui qui a tué le veau gras pour moi. On va aller à Romains 8, puis c'est là qu'on va voir le veau gras. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Amen. Au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors vraiment, Dieu il a tué le veau gras. Quand il nous a donné son fils Jésus, il le savait que son fils Jésus... avec lui viendrait le veau gras, l'abondance. Amen. La grande réjouissance, grande célébration. Amen. Les festivités, le banquet mis. Amen. La table qu'il dresse devant nous. Dans le psaume 23, ça dit, il dresse une table devant tes adversaires. Mais nos adversaires sont de l'autre côté, mais il y a une table qui nous sépare de nos adversaires. Puis l'adversaire, il peut pas venir te toucher si toi, tu es conscient qu'il y a une table qui nous sépare. Mais si tu le laisses passer en dessous de la table, ça, c'est une autre affaire. Voyez-vous, le jeune, l'enfant prodigue, il était pour laisser passer, là, la grande festivité qu'il aurait pu avoir avec son père, puis juste être traité comme un serviteur. Le religieux, lui, il s'en est jamais occupé de l'abondance qu'il pouvait avoir avec son père. Mais il y a une table, et la table, c'est cette table de délivrance. Quand dans le psaume 23, ça dit, il dresse une table devant nos adversaires, c'est qu'il y a quelque chose sur la table. Le veau gras a été tué pour nous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Voyez-vous, il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. C'est pas écrit, il est mort pour qu'on ait la vie en abondance. Il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Mais quand il est mort, le veau gros a vraiment été tué. Voyez-vous, il aurait pu faire qu'est-ce qu'il avait à faire sur la terre, puis répandre la parole de Dieu en tout lieu, donner l'onction à 12, après 70, puis partager son onction sur le monde, puis dire, allez, faites les choses que je fais, faites connaître mon Père. Mais il était dans le jardin un jour, puis il a dit, Père, faut-il vraiment que je paye le prix au point de mourir. L'agneau de Dieu, amen, de mourir sur la croix. Son père, il dit oui, parce que tous ceux-là qui croiront en toi, pourront avoir la vie, puis l'avoir en abondance. Il dit, paye le prix, souffre pour qu'il ne souffre plus. Fais-toi, laisse-toi voler, laisse-toi devenir pauvre pour que les autres soient enrichis. Subis le châtiment qui va leur donner la paix. Dieu, il a tué le veau gras pour nous. C'est à nous maintenant de célébrer, amen, tout ce qui a été fait pour nous. Il y a quelque chose qui nous sépare de l'ennemi, c'est une table. Des fois, quand ça va mal, approchez-vous de la table. Dites, wow, l'ennemi! T'as été défait à la croix parce que lui est mort. Je suis guéri parce que lui a souffert. Tu viendras pas me voler parce qu'il s'est fait pauvre. Il y a une table ici qui me sépare de toi. Ça fait une différence. Le veau gras, il a été tué pour nous. Reconnaissons-le. Et c'est comme ça que les pères doivent être aussi envers leurs femmes qu'ils doivent protéger, puis envers leurs enfants. Amen. Gloire à Dieu. On va célébrer notre Père éternel. On va se lever debout. Durant le temps que vous vous levez debout, je vais juste vous lire une écriture. Que dans Malachie, au verset 6, ça dit, « Un fils honore son père, puis un serviteur son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la révérence, la crainte, la révérence qu'on a de moi? » Amen. Peu importe ce qui peut être à vos yeux. Si vous autres, il demeure le maître, bien, donnez-lui au moins révérence et crainte. Mais s'il est un père, où est l'honneur qui lui est dû? Amen. Les pères terrestres, vous êtes le meilleur exemple pour vos femmes et vos enfants du Père céleste. On va prendre la communion. Oui. Tout avant de prendre la communion, parce qu'on veut discerner qu'est-ce qui a été fait à la croix. Et comme j'ai dit, cette table-là, c'est parce que Jésus a dit oui de mourir à notre place, de porter nos péchés, la punition du péché qui était la mort, la souffrance, il l'a portée, la pauvreté, il s'en est chargé. Alors, la parole de Dieu nous dit que si on reconnaît, puis qu'on le dit avec notre bouche, nous serons sauvés. Alors, juste pour s'assurer que chaque personne est bien positionnée pour recevoir ce matin l'abondance du veau gras, on va faire cette prière ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, je reconnais que tu as payé le prix qui me donne la liberté et qui m'amène à la vie. Jésus, tu es le sauveur de ma vie. Et tu m'as pris tel que je suis. Tu as pris tous mes problèmes et mes fardeaux. Tu t'en es chargé à la croix. Merci de m'avoir donné la vie et l'entrée au paradis. Au nom de Jésus. Amen.
En prenant ce pain ce matin, nous reconnaissons ton corps brisé pour nous, Seigneur Jésus. Tu es venu pour nous donner la vie du Père, cette vie en abondance. Nous voulons te donner l'honneur qui te revient, en nous rappelant ton amour, compassion et abondance envers nous. Prenez et mangez au nom de Jésus. Ton sang versé pour nous et l'humiliation que tu as supportée contre ta personne nous a positionnés à devenir justice de Dieu. Que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies, nos familles, nos corps, dans le nom de Jésus. Prenez et buvez.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit de faire ça en souvenir. C'est important de se rappeler qu'on a toujours une table devant nous. Toujours. Elle est toujours dressée. Elle est toujours mise. Il n'enlève jamais la table. Elle est toujours mise. On peut toujours s'approcher. Il y a toujours le même sang précieux qui parle pour nous. Il y a toujours le même pain. Il n'y a pas moisi. Il y a toujours le même pain à laquelle on peut prendre part. Alors, gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ce matin, venez en avant. On va vous donner une Bible, le Nouveau Testament, depuis que Jésus est venu. Et à cause de cela, vous allez pouvoir commencer à comprendre quel est le testament que Dieu vous a laissé.